cette soirée sera animée par Olivier Mannoni, qui a non seulement traduit ce roman de 1000 pages, mais qui est aussi auteur, journaliste et depuis très peu directeur de l'école des traducteurs du CNL, qui vient juste de se créer. Cette soirée sera animée par les lectures scéniques de Marie Rouvray, de la compagnie Tari Rouvray, et traduite par Cordula Gouski. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci. Oups. Merci, Yota. J'ai donc le vrai grand plaisir d'accueillir ce soir Uwe Tellkamp, pour plein de raisons dont on va parler ce soir. D'abord parce qu'on accueille, je crois, un très très grand auteur. Ensuite parce que je retrouve quelqu'un avec qui j'ai travaillé voici 2 ans pendant une semaine de manière intense avec une dizaine de traducteurs européens sur un texte qui est un des plus difficiles qu'il m'a été donné de traduire et aussi un des plus beaux. Et que cette expérience commune a créé des liens qui sont d'ordre littéraire et qui sans faire de romantisme, tiennent à ces contacts profondément européens qu'ont pu être les contacts de la littérature qui passaient d'une langue à l'autre il y a quelques décennies, quelques siècles, et qui font la véritable vie de notre littérature. Je l'accueille avec d'autant plus de plaisir que nous le faisons pour ce qui est pour l'instant son premier chef-d'œuvre, Der Turm, La Tour, qui est donc publié en français 2 ans après sa parution en Allemagne, 2 ans et demi. Je crois que c'est un livre important et je suis extrêmement heureux de pouvoir le présenter ce soir. Uwe Tellkamp, comme vous pouvez le constater, est un jeune écrivain. Il est né en 1968. La Tour est son 3e livre, mais il s'est fait aussi connaître et reconnaître en Allemagne pour son travail poétique. Il a été reconnu d'emblée comme un maître de l'écriture de l'allemand. Son style, vous allez le voir ce soir, est un style qui est parfois d'un grand classicisme, mais il s'est aussi joué avec ce grand classicisme pour pousser ses textes dans des contrées littéraires tout à fait étonnantes. C'est un auteur qui joue avec l'humour, qui joue avec la violence, qui joue avec la beauté des termes techniques. Uwe Tellkamp n'a pas été écrivain toute sa vie. Il a suivi comme son héros des études de médecine. Il a été médecin. Il vit encore à Dresde et je suis vraiment heureux de l'accueillir ce soir pour parler de ce livre. Alors, nous avons choisi, pour vous présenter ce livre qui est d'une grande diversité, 4 petits extraits qui vous en donneront un aperçu. Je parle d'un aperçu parce que c'est un livre, vous l'avez compris, il fait 1000 pages, il représentait 1800 feuillets dactylographiés de traduction. Et c'est un livre qui, d'un bout à l'autre, est un bouillonnement comparable pour les germanistes à peu près uniquement au premier grand livre de Günter Grass, des livres qui balaient leur époque, qui balaient une zone géographique et qui surtout en font autre chose, puisque s'il est vrai que la totalité du roman se déroule dans un lieu qui ressemble beaucoup à Dresde et beaucoup à l'ancienne RDA, Uwe Tellkamp nous emmène au bout dans un univers qui n'a pas plus à voir avec Dresde et avec la RDA que le château de Kafka pouvait avoir avec Prague, c'est-à-dire qui nous emmène dans la littérature, dans quelque chose qui est au-dessus, 1000 fois plus intense. Et l'intensité, c'est ce que nous allons essayer de vous montrer ce soir, est la principale caractéristique de ce livre, qui est immense et qui pourtant arrive un petit peu comme un trou noir, vous savez, dans l'espace, avec une intensité, une énergie phénoménale. Sa naissance en France s'est passée comme ça aussi. C'est un livre qu'on m'a demandé de lire en l'espace de quelques jours. Parfois, les traducteurs qui font des lectures voient arriver des tout petits livres. Ils mettent 2 mois, 3 mois avant de décider qu'effectivement, ce n'était pas la peine de passer la 4e page. Et ce livre-là, au bout de 3 jours, je l'avais terminé. J'ai appelé l'éditrice Ariane Fasquelle chez Grasset en lui disant « c'est pour vous. Elle a pris ce risque qui est un très gros risque pour un éditeur. Et les choses ont suivi, la traduction s'est faite. Et nous avons maintenant ce livre qui, sur 2 ans de traduction, va vous être présenté en l'espace d'une heure. Je vous ai dit, nous parlons de contraction d'espace-temps. Et c'est un des thèmes du livre d'Uwe Tellekamp. Pour vous faire entrer dans le livre, je vais demander à Marie Rouvray de commencer avec un premier passage qui est le tout début du livre.
Enquête. Le fleuve semblait se raidir dans la nuit naissante. Sa peau se froissait et crépitait. On aurait dit qu'il voulait prendre de court le vent qui se levait dans la ville lorsque la circulation sur les ponts s'était déjà réduite à quelques voitures et à de rares tramways. Le vent de la mer qui enserrait l'Union socialiste, l'Empire rouge, l'archipel, irrigué, nourri, traversé, innervé, envahi par les artères, les veines, les capillaires du vaste fleuve alimenté par la mer. Dans la nuit, le fleuve qui ramenait avec lui les bruits et les pensées sur sa surface scintillante, le rire, le sérieux et la gaieté dans la pénombre croissante, des matières en suspension descendant dans ses profondeurs où se mêlaient les caniveaux de la ville. Dans l'obscurité de la mer profonde, rampait la fange de la canalisation, exuda dégoulinant des maisons et des vebs, les entreprises du peuple, vers la profondeur où fouissaient les lémures, où s'accumulait le bouillon métallique lourd et huileux des bains de galvanisation, l'eau des restaurants, des centrales électriques à la houille et des combinats, les torrents d'écume des usines de détergents, les eaux usées des aciéries, des hôpitaux, des hauts fourneaux et des zones industrielles, la marinade irradiée des mines d'uranium, les soupes toxiques des installations chimiques de l'Oina Bunahal et des mines de potasse de Magnitogorsk et des zones de construction en plaques de béton, les toxines des usines d'engrais, des fabriques d'acide sulfurique dans la nuit, le fleuve, ramifier les rivières de vase, de scories, de pétrole, de celluloïdes. Les eaux se fondaient en un grand ruban poisseux sur lequel les navires passaient, glissant par-dessous les toiles d'araignées rouillées des ponts, rejoignant les ports de minerais, les ports de céréales, les ports de fruits exotiques, les ports des 1000 petites choses. Et je me rappelle la ville, le pays, les îles reliées par des ponts à l'Union socialiste, un continent l'Eurasie, dans lequel le temps était encapsulé dans une concrétion inaccessible à l'autre temps. Et la musique crépitait sous le bras des tourne-disques, entre les rainures noires du vinyle, envoyait des tourbillons lumineux sur l'étiquette jaune de la Deutsche Grammophon, les logos d'Eterna et Melodia. Tandis que dehors, l'hiver gelait le pays, élevaient des étaux de glace sur les rivières qui serraient le fleuve dans leurs tenailles, et telle la course des aiguilles sur les horloges, le freinait jusqu'à l'immobiliser. Mais les horloges sonnaient. Je l'entends comme si c'était aujourd'hui.
Voilà donc le tout début du roman. Ouvre-t-elle quand la tour est un récit, nous allons le voir, c'est une série de récits qui se mêlent, s'entremêlent les uns les autres et qu'il faut avancer le lecteur dans une série de biographies, d'histoires. Et pourtant, avec cette entrée du livre, on a 2 impressions. La première, c'est qu'il y a une volonté de marquer une grande ambition littéraire. Et la deuxième, c'est de montrer tout de suite que vous emmenez le lecteur ailleurs que dans un espace géographique, un peu comme Virgile emmenant Dante vers les enfers. Et s'il y avait une question, ça serait, quelle était votre intention en lançant ce livre comme ça?
Zunächst, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne parlais français pas, excusez-moi. Intention hatte ich eigentlich keine, beim Anfang des Buches nicht und auch nicht später. Denn ich hatte ein Bedürfnis nach einem Bild. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich hinsetzen kann oder hinsetze und sage, ich möchte jetzt das und das gerne erreichen oder dieses und jenes gerne illustrieren. Das geht in der Regel schief bei mir, sondern es ist das Bedürfnis, ein sprachlicher, energetischer Strom, der in Worten sein will. Und, kleinen Moment, diese Obertitel.
Moment, ja. Oui. Donc, pour moi, effectivement, il n'y avait ni intention, ni au début, ni plus tard dans ce livre. Et pour moi, ce que j'avais à exprimer, c'était un besoin d'une image. Ce n'est pas vraiment... C'est une association. C'est ce que je veux quelque chose. Je veux aboutir à quelque chose. Je veux illustrer quelque chose. Je ne peux pas m'asseoir quelque part et dire je veux écrire quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Du moins pas avec moi. Ce que je cherche, c'est vraiment un flux énergétique et linguistique qui sort de moi et que je veux transmettre.
Und am Anfang des Buches ist es der Strom, ein nicht näher genannter Fluss, der beginnt, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht als Metapher, der immer weiter anschwillt und zum Schluss, wenn alle Uhren des Buches zusammenschlagen, in der Revolution von 1989 einmündet, dort seine größte Breite erhält und dort als Thema, musikalisch gesprochen, seine letzte Durchführung oder sein Finale bekommt.
Et au fait, moi, l'image que j'ai choisie, c'est l'image de ce fleuve qui part, donc qui est décrit. C'est la première image que j'utilise, un fleuve qui n'est pas nommé, qui est son nom, mais qui traverse tout le livre et qui est une métaphore qui va croissante. C'est un fleuve qui gagne en importance, qui croît et qui, finalement, avec la révolution en 89, se jette dans la mer, arrive à son aboutissement, à l'image finale.
Und eins der Themen des Buches ist Stillstand. Es handelt von einer sehr stillstehenden oder nahezu stillstehenden Zeit. Und als Kontrapunkt zu diesem Stillstand ist diese Sprachbewegung, die immer wieder im Buch vorkommt, intendiert, wenn wir also über Intentionen sprechen.
Et donc il y a un sujet qui vient tout le temps, où tout mon œuvre au fait tourne autour de cette idée de l'inertie, de l'arrêt du temps aussi, parce que les horloges reviennent tout le temps. Le temps est arrêté et le mouvement, c'est un mouvement linguistique, cette intention linguistique qui se poursuit, qui pulse et qui se retrouve au cours du livre.
Alors le texte que nous avons entendu est écrit par l'un des personnages principaux de votre roman, Meno, qui est un des membres de cette très grande famille qui gravite autour de Christian, qui est composée de plusieurs maisons au nom très mystérieux, la maison des milieux, des titres comme ça tout à fait intrigants, qui décrivent une espèce d'univers mental en dehors du réel, et où vivent des gens qui semblent vivre eux aussi tout à fait en dehors de ce qu'on croyait être le quotidien de la République démocratique allemande, une sorte d'Atlantide dans l'Atlantide, je dirais, qui est un reste de Bildungsbürgertum allemand qu'on trouve chez Thomas Mann, et les références à Thomas Mann, je crois que Uwe ne me mentira pas, sont très fréquentes dans le livre, très importantes. Comment avez-vous imaginé cette famille, et puis est-ce que vous pouvez dire un peu de qui elle est composée, parce que c'est que les lecteurs sachent un peu à qui ils vont avoir affaire.
Also das Buch ist erzählt aus drei Perspektiven, aus drei männlichen Perspektiven, die über Verwandtschaftsverhältnisse miteinander zusammenhängen. Die erste Perspektive ist Richard Hoffmann, das ist ein Chirurg, Oberarzt an einer Dresdner Klinik. Die zweite ist von seinem Sohn Christian Hoffmann, der zu Beginn des Buches Abiturient ist, von der Schule kommt, zur Armee kommt. Und die dritte Perspektive ist Richards Schwager und Christians Onkel Meno Rode, der auch diesen Anfang des Buches erzählt oder schreibt. Und Mitglied der sogenannten Nomenklatura ist.
Pour vous situer les perspectives, au fait, il y a trois différentes perspectives d'un point de vue de trois hommes qui sont tous parents. Et dont le premier, c'est Richard Hoffman. Richard Hoffman, il est chirurgien, il travaille dans une clinique à Dresde. Vous avez le second, Christian Hoffman, qui est son fils. Il passe son baccalauréat en début du livre. Après, il quitte l'école pour faire son service militaire. Et puis, le beau-frère ou l'oncle, qui est Menno Rode, qui est lui, en fait, le narrateur de ce livre que l'on a entendu tout à fait au début.
Nomenklatura bedeutet eine Herrschaftskaste, wie sie sehr typisch war für das sozialistische Gesellschaftssystem, ein Gemenge aus Parteikadern, Offiziellen, Generaldirektoren und ihren Kindern. Menno Rode ist Angehöriger einer sogenannten roten Aristokratie. Das ist keine offizielle Bezeichnung, sondern ein inoffizielles, ja, wie Spitzname oder Spitzwort. Stammt von Eltern ab, die im Moskauer Exil waren. Und von diesen Menschen, die im Moskauer Exil waren, sind viele der Regierungsmitglieder der, sagen wir, herrschenden Klasse oder Kaste gekommen. In der DDR nicht nur, sondern auch überall. In der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien, in fast allen Ländern.
Menno Rode appartient à la nomenclature. La nomenclature, ce n'est rien d'autre que l'on appelle la nomenclatura, ce n'est rien d'autre qu'une caste, la caste régnante qui a existé dans le système socialiste. C'est quelque chose qui, c'est un mélange entre les membres des partis, les cadres, les officiels, les cadres dirigeants des entreprises. C'est ce que l'on appelle à l'époque l'aristocratie rouge. Ce n'est pas un titre officiel qui lui est donné, c'est uniquement une appellation inofficielle pour cette caste, telle qu'il faut la nommer, qui existait à l'époque. Et les parents de ce dénommé Menno Rode ont vécu en exil à Moscou, et les exilés à Moscou, au fait, sont revenus et sont ultérieurement devenus souvent des dirigeants de cette RDA qui s'est positionnée à Presse, et les dirigeants de la classe régnante. Et puis, c'est un phénomène que l'on a pu voir aussi bien en RDA qu'en Tchécoslovaquie, qu'en Roumanie, par exemple.
Und aus der Perspektive dieser drei werden die letzten sieben Jahre in diesem Land, was eher Atlantis ist als DDR, geschildert.
Et c'est du point de vue de ces trois personnages que sont décrits les sept dernières années de cette Atlantide qui se veut vraiment plutôt l'Atlantide que la RDA finissante.
Dieses merkwürdige System, das so sehr anders zu sein scheint als das, was wir heute erleben. Wir haben heute eine sehr dynamische Zeit, dort war es genau das Gegenteil, eine nahezu stillstehende Zeit, die aber unterschwellig unter der Oberfläche ihre Energien zum Vorwärtsdrängen hatte, schlägt sich im Buch nieder. Es sind Alltagsgeschichten drin, banale Geschichten, Liebesgeschichten, aber eben auch die Erkundung letztlich eines Märchens. Und Märchen deshalb, weil es für mich ein Märchen ist, wenn die Uhren stillstehen und eine äußerliche Zeit weitergeht, die Uhren messen, aber innerlich nichts geschieht. Wenn Jugend verrinnt, ohne alt zu werden, und wenn Alter immer ist, ohne jung zu sein.
Donc effectivement, il s'agit là d'un système très bizarre, très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, dans la mesure où, au cours de tout le texte, on a quand même un petit peu ce phénomène du temps arrêté, mais avec une énergie, un flux énergétique sous-jacent qui pulse en continu. Et c'est un récit qui regroupe beaucoup d'histoires, des histoires sur le quotidien, des histoires d'amour, des histoires assez banales, au fait. Mais c'est un aboutissement dans un conte. Conte, pourquoi ? Parce qu'il s'agit là de raconter une perspective. Pour moi, l'image des horloges arrêtées a toujours été très séduisante, le temps arrêté, mais en même temps, les horloges sont arrêtées, mais le temps court, le temps continue. Et c'est un temps où la vieillesse, où les vieux ne sont jamais vraiment jeunes et les jeunes ne sont jamais vraiment vieux. Et c'est une intemporalité présente.
Il y a Ouvatel quand parle de conte, et effectivement il y a dans ce livre tous les éléments du conte, à la fois ce décor que vous avez vu camper, qui place le récit dans une espèce d'irréalité immédiate, tout en le déroulant dans quelque chose qui ressemble au réel et qui n'est pas tout à fait le réel. Il y a ces décalages temporels dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font qu'on passe tout d'un coup d'accélération fulgurante à des ralentissements totaux du temps, à l'arrêt de, par exemple, de ces flots qui passent dans tout le livre, des flots de matière qui peuvent être l'eau de ce fleuve qui n'est pas nommé, mais dont on devine qu'il peut s'agir de l'Elbe, et surtout de tout ce qu'elle charrie, la poix qui coule parfois sur les grilles des usines, d'une mystérieuse usine de produits chimiques dont on ne sait pas exactement ce qu'elle produit ni pourquoi, le matériel ferreux qui partout dans le livre passe par les décorations sur les murs, par terre, le cuivre qui apparaît sur les toits comme autant de symboles de minéraux qui se sont incrustés sur Dresde. Et c'est une des grandes forces de ce livre, c'est ce jeu poétique permanent avec les matériaux, le temps et le réel et l'irréel. Et puis, dans tout cela, il y a l'histoire aussi d'une famille qui est tout à fait normale, qui semble s'entendre merveilleusement bien, qui vit dans l'harmonie et qui, au fil du livre, va se décomposer en même temps que l'Atlantide. Les belles apparences du tout début, le chirurgien brillant avec sa gentille femme avec lequel il semble mener une vie absolument rose, est en fait le père d'une petite fille avec une autre femme. Les deux étudiants brillants vont se révéler beaucoup moins dociles qui n'y peut paraître. Et pour montrer tout cela, Uwe Tellekamp, dans son livre, mélange à la fois la progression de ces gens dans leur existence et leur heure quotidien avec la réalité de cette Atlantide qui ne fonctionne plus très bien, où des règles continuent à s'appliquer, où ils sont, Uwe l'a dit, dans la nomenclatura, et où ils sont pourtant eux aussi soumis aux petites brimades de la vie quotidienne. Et pour vous en donner une idée, nous avons choisi un deuxième passage où Uwe décrit magnifiquement ce qu'était cette concomitance de temps et de réalité qui était a priori incompatible.
L'accueil central était un hall rempli de guichets et bourdonnant de voix et de bruits de bandes transporteuses. Tout ici respirait la patience et la paperasse. Au milieu du hall, un sapin encore orné d'escargots, de lampes jaunes citron Narva, de petits chevaux de Zeissen, le village des jouets, perdait tranquillement ses aiguilles derrière son cordon de sécurité. Mais cela ne semblait intéresser aucun des messagers en blouse qui poussaient leur chariot, le regard vide, à travers les files d'attente. Régine prit sa place devant le guichet portant les lettres LMN, Richard devant le H. Et lorsqu'il regarda autour de lui, il découvrit Méno, qui, comme eux, avait fait trop vite et avait dû revenir s'inscrire au guichet R, devant lequel s'étirait la seconde file d'attente par la taille, après celle du S, SCH, ST. Une heure plus tard, ce fut le tour de Richard. Il avait deux requêtes à formuler. D'une part, il devait obtenir une deuxième expertise sur le cas d'un vulcanisateur qui, bien qu'il soit l'unique vulcanisateur dans le sud de Dresde, avait reçu un ordre de mobilisation. Sur quoi, Richard, à la demande de Müller, dont l'Opel capitaine avait besoin d'un bon vulcanisateur, avait établi pour cet homme, lors d'une première expertise, un certificat d'inaptitude totale au service militaire en raison d'une atrophie de 10 cm à la jambe gauche. En deuxième lieu, le chauffe-eau de la caravelle arrivait à la fin de ses jours, et Richard voulait en demander un nouveau. Quatrième étage, couloir E, bureau DH, dossier habitation, trait oblique, chiffre romain 2, précisa l'homme derrière le guichet. Régine avait elle aussi deux affaires à régler. D'abord, elle devait obtenir une attestation certifiant que le violon de Hansi n'était pas un élément du patrimoine culturel de l'État et que son exportation ne nuisait en rien aux intérêts supérieurs. En deuxième lieu, Elle avait reçu une invitation à un entretien personnel avec le collaborateur de l'administration chargé de son affaire. La caisse est aussi au 4e étage, au couloir B, mais nous pouvons monter ensemble. Dans le bureau DH, dossier habitation très oblique chiffre romain 2, Richard a appris que le chargé de dossier de l'accueil central s'était trompé et que le bureau des demandes de chauffe-eau communaux se trouvait au 11e étage, couloir G, bureau AML, administration municipale du logement, porte 5 en chiffre arabe. Il revint voir Régine. Elle regarda nerveusement sa montre, elle avait un rendez-vous à 9h30 et il y avait à peu près 2 douzaines de personnes qui faisaient la queue devant le bureau des estimations. Richard pouvait-il faire évoluer le violon à sa place ? Mais pour ça, chère madame, il vous faut faire délivrer une attestation, la prévint un monsieur qui la précédait dans la file d'attente et désigna le bureau installé au bout du couloir. Il faut qu'il confirme d'abord que c'est vous qui déposez l'objet à expertiser. Deuxièmement, qu'il vous appartient. Troisièmement, que vous donnez procuration au monsieur. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'il reprit sa place dans la rangée, après la procédure de confirmation, Richard se rappela que certains bruits avaient couru ces derniers temps sur ce bureau d'estimation. Bernstein lui avait raconté une affaire, et Bernstein le tenait pour sa part de l'infirmière, fiancée à un assistant en médecine interne. Une assistante technico-médicale y avait hérité d'un violon Guarneri. Mais n'étant pas certaine de l'authenticité de la pièce, elle était venue la faire expertiser ici, au bureau d'estimation. Le violon était bel et bien un Guarneri, authentique. Une rareté sur laquelle la tante défunte de l'assistante avait fait courir son archet, discrète et modeste, pendant les décennies où elle avait joué parmi les deuxièmes violons de la Philharmonie de Dresde. Personne, hormis cette tante qui vivait seule, n'avait eu connaissance de la particularité de son instrument. Le nom du luthier italien n'était apparu que dans le testament. Au bureau d'estimation, l'assistante avait trouvé à côté de l'expert un homme en costume gris. Après que le vérificateur eut compulsé quelques catalogues, fut revenu à plusieurs reprises regarder l'intérieur du violon avec un petit miroir de dentiste, et par sécurité, eut pris le temps de consulter un collègue, l'homme en gris avait décroché le téléphone et eut une assez longue conversation. L'assistante, qui pensait avoir désormais assuré ses vieux jours, reçut un peu plus tard une lettre rédigée par le service financier de l'île au charbon. L'assistante ne pouvait réunir la somme qu'on y réclamait comme arriéré d'impôt, et le violon fut confisqué.
On a donc un deuxième aspect de ce livre, vous avez vu, extrêmement différent du premier, à la fois très kafkaïen dans le traitement et sur le fond, plein d'humour, plein d'une irritation qu'on sent un petit peu aussi pointée. La question que je voulais poser maintenant à Uwe Tell, quand je suis rentré dans ce livre, les premières pages, je me suis dit... Nous voilà revenus à ce que disait Günter Grass, c'est-à-dire la description de ce qu'il a appelé une dictature confortable, où finalement on pouvait vivre. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, la dictature devient de moins en moins confortable, le confort s'effrite, devient cette Atlantide qui part en morceaux petit à petit. Et à quel moment ce confort devient insupportable ? Je veux dire, à quel moment on passe de la dictature confortable à la vraie dictature ?
Also dieses Wort von Günter Grass, von der Kommodendiktatur, so wie es eigentlich heißt, ruft meinen Widerspruch hervor. Eine Diktatur, also natürlich kann man, wenn man über die DDR spricht, kann man sagen, ja, es gab Nischen, es gab Freiräume, aber das gibt es in einem solch großen Gefängnis immer. Oder anders ausgedrückt, wir haben heute bei vielen Bewohnern dieser Atlantide, wenn man es so nennen will, das Bedürfnis, nostalgisch zurückzublicken, eine gewisse Nostalgie zu haben. Man sagt dann zum Beispiel, es gab viel weniger Kriminalität. Und dann, dazu kann man nur sagen, ja natürlich, in einem Gefängnis ist die Kriminalität ganz gering. Das hängt aber damit zusammen, was ein Gefängnis ausmacht. Dort sitzen die Kriminellen drin und die Diebe sind draußen. Also ich bin ein ziemlicher Gegner dieses Wortes von der kommoden Diktatur, wenngleich Günter Grass gute Kenntnisse hatte von dem Land, aber das kommt sehr auf den Gesichtspunkt an, vielleicht nachher.
Donc je ne suis pas trop d'accord avec cette opinion exprimée par Günter Grass qui parlait à l'époque donc de la commode dictature, en fait la dictature commode, donc confortable. Je n'aime pas trop ça. Effectivement, on peut dire que dans la RDA, il existait des niches et on avait des places pour certaines libertés, des manœuvres, mais c'est toujours le cas dans les dictatures. Et les habitants de cette Atlantide dont on parle dans ce livre, effectivement, il y a une certaine rétrospective nostalgique à laquelle on assiste. Par exemple, on a toujours cette nostalgie des gens qui disent à l'époque, il y avait moins de criminalité. Oui, bien sûr, à l'époque, il y avait moins de criminalité, étant donné qu'en prison, il y a très rarement de la criminalité. C'est l'essence même de la prison. Étant donné que les criminels sont enfermés et qu'a priori, voilà. Donc c'est pourquoi, même si je pense que Günter Grass avait une très bonne connaissance du pays, à savoir de la RDA, je ne suis pas trop d'accord avec son concept de la dictature confortable.
Das Problem war, dass es gab Privilegien für bestimmte Menschen oder auch Gruppen von Menschen, die für den Staat einen gewissen Nutzen hatten. Also Musiker beispielsweise, ich komme zum Teil aus einer Musikerfamilie, die konnten durchaus reisen, das war möglich, aber es galt immer einen Preis dafür zu entrichten. Und dieser Preis bestand darin, dass man sich eben anpasste und zum Wesen auch in der Diktatur, auch in der sogenannten Kommoden gehört, dass die Diktatur Menschen zwingt, in Situationen zwingt, in denen sie nicht mehr ehrlich sein können. Das heißt, wenn ich einem Arzt, wie das hier in dem Buch passiert, erpresse mit einer früheren Geschichte und dieser Arzt nicht mehr moralisch einwandfrei handeln kann, entweder er folgt der Erpressung, dann macht er sich schuldig, oder er folgt ihr nicht, dann ist er erpressbar mit seinen Kindern. Und das macht für mich das Wesen auch einer Kommodendiktatur aus. Dass man Menschen in Lagen bringt, in denen es kein eindeutiges sauber oder nicht sauber, ja oder nein mehr gibt.
Effectivement, le problème, c'est que effectivement, les dictatures accordent toujours des privilèges. Des privilèges soit à certains individus, soit à des groupes qui, pour la dictature elle-même, peuvent se démontrer utiles. Par exemple, les musiciens. Je suis moi-même issue d'une famille de musiciens. Et les musiciens ont le droit de voyager, mais ce droit de voyage se paye. Il y a toujours un certain prix. Et ce prix est qu'il faut s'adapter, qu'il faut se soumettre au système. Et c'est l'essence même aussi de la dictature, qu'il faut se conformer. Il faut se conformer à des situations. On se trouve dans des situations, les hommes, les êtres humains se trouvent dans des situations qui leur permettent plus d'être sincères. C'est-à-dire, il exerce une certaine pression, notamment ici, c'est le cas dans le livre, un chantage qui est exercé sur ce médecin. C'est-à-dire, à ce moment-là, le médecin n'a plus que deux possibilités. Il n'est plus libre. Soit il cède, et auquel cas, il est soumis. Donc, il n'est plus en sécurité, puisqu'il est soumis au chantage avec ses enfants. Soit il ne cède pas, auquel cas, sa carrière est terminée. Donc, c'est ça le propre même de ces situations inextricables de l'homme et de sa soumission au système.
Und das ist ja, was Grass beschreibt, ist ja auch nur eine äußerliche Oberfläche. Er meint damit vielleicht komfortable Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, sehr preiswerten Mieten, wenn man es mit Paris vergleicht, was stimmt. Aber interessant wird es, wenn man dann in die Tiefen guckt. Ich kenne zum Beispiel einen Oppositionellen und diese Oppositionellen haben oft komfortable Wohnungen absichtlich bekommen von der Staatssicherheit, damit sie bei ihren Freunden angeschwärzt werden. Weil die sich natürlich dann fragen, wie zum Teufel kommt denn der zu solchen Wohnungen? Und schon zersetzt man das. Diktatur funktioniert ja nicht nur mit dem Knüppel oder nach dem Klischee von Schwarz und Weiß, sondern viel sublimer, mit viel feineren Methoden. Und ich kann Menschen auf sehr vielfältige Art und Weise kaputt machen. Und das ist vielen auch gelungen dort.
Ce que Grass a peut-être voulu dire en parlant de cette dictature confortable, ce n'est pas uniquement un confort mental, mais peut-être aussi ce confort matériel, à savoir c'est un aspect de la surface de la chose. Il parlait peut-être aussi des appartements confortables, au loyer abordable, qui était très rare à l'époque. Ça, peut-être aussi, c'est une des choses. Moi, personnellement, par exemple, je connaissais quelqu'un qui était dans l'opposition, qui vivait dans des... Notamment les personnes qui étaient résistants au système. Ils vivaient souvent dans des appartements très confortables qui leur étaient attribués par les décideurs, dans la mesure où ça leur permettait de les noircir un petit peu vis-à-vis de leurs collègues et autres combattants, puisqu'ils se posaient la question insidieuse de savoir mais comment il a fait pour obtenir finalement cet appartement si avantageux. Donc c'est une manière beaucoup plus subtile de miner une société, une amitié, des relations. C'est pas uniquement du noir et blanc tel qu'on le voit dessiné parfois. Il y a différentes possibilités pour casser un homme.
Was hinzu kommt, zumindest in der Diktatur, die ich dort kennengelernt habe, ist, dass sie keinen Raum haben, aus dem heraus sie aus dem gewohnten Raum oder aus dem gewohnten Land hinaustreten können. Sie sind immer komplett umgeben von diesem Raum und das bedeutet, so wie es bei meinen Eltern gewesen ist, dass sie zum Beispiel in einer Woche alle roten Handtücher sind verschwunden. In der nächsten Woche tauchen die roten Handtücher wieder auf und alle blauen sind verschwunden. Und irgendwann glaubt ihnen das keiner und denkt, sie sind verrückt. Und das ist ein typischer Zersetzungsmechanismus von subtilen, geschulten Geheimdiensten. Und das muss ja gar nicht, das funktioniert nicht immer mit Verhaftung oder mit so billigen und über viele Filme inzwischen transportierten Geschichten, sondern das geht viel sublimer. Der erwähnte Oppositionelle beispielsweise bekam eines Tages Kleinanzeigen, er würde Vogelfutter verkaufen. Weil Vogelfutter natürlich Mangelware war in der DDR, hatte der auf einmal 200 Interessenten vor seiner Wohnung, die er nicht los wird. Das ist Diktatur und Zersetzungsarbeit, nicht nur der Knüppel.
Effectivement, ce que je peux ajouter peut-être dans cet ensemble de la dictature confortable dont on parle, c'est que les personnes, les individus ne disposent pas d'un espace leur permettant de quitter l'espace qui leur est imparti. Ils sont contraints d'évoluer toujours dans un espace clos. Pour mes parents, par exemple, je me rappelle, il y avait une semaine où toutes les serviettes rouges avaient bizarrement disparu. Pour réapparaître la semaine d'après, mais à ce moment-là, toutes les serviettes bleues avaient disparu. Donc des choses très bizarres. Ils ne pouvaient pas en parler puisqu'on aurait cru qu'ils étaient fous. On les aurait traités de fous en leur parlant de cette histoire de serviettes. Et tout ça, c'est un travail insidieux des renseignements généraux qui faisaient ça. Donc cette... érosion de la société ne se faisait pas uniquement par des arrestations, ces images qui sont véhiculées dans bon nombre d'œuvres et d'ouvrages aujourd'hui. Ce sont des histoires souvent beaucoup plus subtiles. L'histoire s'est démontrée beaucoup plus subtile. Avec la personne dont je parlais tout à l'heure, ce résistant dont je parlais, effectivement, là aussi, ils avaient trouvé un moyen d'exercer une autre pression. Il y a, par exemple, des petites annonces qui ont paru disant qu'ils vendaient des graines pour oiseaux. Les graines pour oiseaux étaient effectivement très, très rares en RDA. Et ils se retrouvaient avec 200 clients devant la porte qui voulaient lui acheter des graines pour oiseaux. Et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Donc là aussi, c'est quelque chose pour miner la psychologie des gens, pour les user à petit feu.
Und sie hatten eben keine Möglichkeit, über einen Rechtsanwalt oder über ein unabhängiges Gerichts- oder Justizwesen ihre Rechte einzuklagen oder zu bekommen. Das ist für mich das, was das Wort von der Kommodendiktatur übersieht.
Et donc ces personnes-là qui n'avaient aucun moyen, par le truchement d'un avocat ou une autre possibilité, par exemple une justice, un système judiciaire indépendant, de faire valoir leurs droits. Et c'est ça, c'est pour cela peut-être que je réfute un petit peu cette idée d'une dictature confortable.
Et on voit assez rapidement dans le livre que cette dictature confortable n'a rien de confortable. L'une des forces de la démonstration narrative auquel, à laquelle seul ce livre Uwe Tellekamp est précisément de parvenir à montrer tout cela d'une manière qui n'est pas ostentatoire, qui n'est pas démonstrative. Il le fait par des touches d'humour comme celle qu'il vient de nous donner avec l'histoire des graines. Il le fait par une dose de poésie d'une énergie, d'une intensité telle qu'elle arrive parfois, comme le fleuve, à sauter une barrière, à nous emmener vers un nouveau stade de cette Atlantide qui disparaît petit à petit. On a l'impression qu'on descend de plus en plus bas. De cette atmosphère bon enfant du début, on passe à une atmosphère inquiétante. Uwe a parlé du chantage, par exemple, qu'on exerce contre le médecin. Mais il y a d'autres chantages. Le chantage qu'on exerce aussi sur les lycéens qui veulent faire des études et qui sont obligés de faire des services militaires longs de 3 ans. Donc de s'engager au cours de séances tout à fait que Uwe Tellekamp décrit d'une manière magistrale de pression mentale intense qui font craquer les plus résistants. Et tout cela débouche sur la dictature qui, elle, n'a plus rien de confortable, qui est la véritable dictature au-delà de cet univers un peu protégé qu'on voit au début. Et elle débouche notamment pour Christian, le héros du roman, sur la réalité militaire de la RDA et d'une manière générale du bloc de l'Est. Qu'il nous décrit dans des passages littéralement apocalyptiques. On en a choisi un ce soir qui donne simplement une idée. Mais par exemple, Christian est arrêté à plusieurs reprises pour des protestations contre des mesures et à la suite d'un accident gravissime qui se passe et où il prononce des mots qui lui sont reprochés. Et vous trouverez dans le livre des passages, notamment où Christian se retrouve dans les mines de houille à ciel ouvert avec des excavatrices géantes qui sont là encore, je reviens parce que c'est vraiment l'exemple qui me vient à l'esprit à chaque fois, qui sont dignes de certaines scènes de Dante tellement elles sont fantastiques et fantastiquement décrites. Là, je voulais juste simplement vous montrer comment à un moment on bascule de ce kafkaïsme qui fait un peu sourire à un autre qui ne fait plus sourire, et c'est l'irruption, une des irruptions de la vraie violence dans le roman.
Camp d'entraînement, le 4. Ça commence à 3h30 du matin avec une alarme combat. Sifflet, cri, frénésie. Être prêt pour l'intervention avant l'écoulement du temps standard. Couverture grise en long sur le lit. Départ pour une place de rassemblement déterminée à l'avance où nous attendons. Soudain, Poisson ordonne « Pour toute la section, demi-tour, droite !» Nous pivotons sur 180 degrés. Poisson se campe à côté de nous et désigne l'horizon. « Regardez le lever du soleil. On ne voit pas ça souvent. Vous n'en verrez peut-être jamais plus d'aussi somptueux. » Lorsque l'officier de garde apparaît, la compagnie est divisée en groupes. Irgang, Breck et moi-même sommes affectés au groupe des munitions. On part pour le parc technique. Il faut amunitionner 60 blindés qui arrivent d'on ne sait où. Un blindé a une capacité d'engagement de 43 obus. Chacun pèse 50 kilos. 43 multiplié par 50 égale 2150 kilos. Nous sommes 10. Ce qui représente 2150 multiplié par 60 divisé par 10, soit 12 900 kilos d'obus à charger par personne. Les obus doivent être lancés à la chaîne. À l'intérieur du blindé, un conducteur les glisse dans les supports. Après cet exercice, je me suis surpris à regarder fixement devant moi ce qu'on appelle souffler. On reste là, immobile, et on respire. Rien d'autre. Les blindés qui partent avec nous pour le champ de manœuvre sont chargés à la gare de marchandises sur des wagons préparés à l'avance. Nous roulons dans des wagons à bestiaux où le Mongol nous autorise à nous allonger sur la paille hachée. Nous allons vers Francfort sur l'Oder. Le champ de manœuvre se trouve à proximité de la frontière polonaise. L'Oder n'est pas loin. Lorsque nous avons fait notre entrée à pied dans le camp, nous pouvions entendre la débâcle. Le camp se trouve dans la forêt. 20 wagons des années de guerre disposés en carré derrière un bâtiment de pierre pour les moniteurs de conduite et les officiers. Les wagons sont nos abris. Dans les wagons se trouve une table, un poêle, aucun n'a de tuyau. On dort sur des couchettes en planches disposées sur deux côtés étroits le long du wagon. Nous sommes 16, 4 en haut, 4 en bas, pareil de l'autre côté. Un peu moins d'un mètre pour chacun. À ma place, j'ai trouvé un lucane mort femelle. Je n'avais malheureusement rien pour le conserver et ne savais pas où le mettre. Je ne pouvais pas non plus le glisser dans la lettre. Les coups de tampon font de tels dégâts. Irgang a dit « Passe-le donc par ici, le bestiau. C'est toujours un peu de protéines. Et qui sait, si on ne fêtera pas Noël juste avec la complecte ?» Poussière gelée, partout. Elle est accrochée au plafond comme une forêt de crochets. Il y a quand même de l'électricité. Une ampoule dessine un faisceau lumineux. Nous commençons par ranger l'équipement, puis nous creusons les latrines de la compagnie. Chaque classe doit en creuser une nouvelle. Pour se laver, il y a un tuyau en plein air, gelé, bien entendu, mais les moniteurs y ont pensé, et déjà l'eau lance flamme. L'eau sort du sol de la forêt, puisée par une pompe. Elle vous démange la peau parce qu'elle est acide, et bien entendu non potable. Se laver devient ainsi un véritable plaisir. Chaque matin, dans l'air rafraîchissant de l'hiver, nous sortons devant les wagons, ou bien en pantalon de sport, ou bien tout nu, à part les bottes, et nous allons au pas de course-marche, dans la neige poudreuse, pour nous laver dans les auges où l'eau est gelée. Nous brisons la glace à l'âge de blindés et profitons d'un beau bain. Quelle est la différence entre une mouflette et un élève sous-officier au bout de quelques jours de camp de manœuvre ? Le sous-officier n'a pas d'eau de Cologne. Chaque matin, réveil à 5 heures, puis 10 minutes pour s'habiller, 10 minutes pour rétablir l'ordre intérieur, petit déjeuner, boîte C, C pour combat, puis départ pour la formation qui dure de 6 heures à 20 heures. Exercice de tir avec tube de réduction qu'on glisse dans le canon du char pour pouvoir tirer des obus de calibre inférieur avec le Panzer MG. Exercice à la grenade réelle. Nous marchons avec les citrons. C'est comme ça qu'on appelle ces engins, dans les poches de nos pantalons, jusqu'à ce que nous arrivions devant un T-34 brûlé qu'on a garé ici dans la forêt. Nous sortons un bref instant du camp vert et nous lançons les citrons en direction d'un Saint-Pincier et d'un ennemi de classe déjà très affaibli par l'effet de ces objets. Irgang, et qu'est-ce que je fais, camarade sergent-chef, si la grenade me tombe sur les pattes ? Vous avez déjà découpillé ? Demande le sergent-chef Gluckliche. Je crois bien, camarade sergent-chef. Eh bien, dans ce cas, pourquoi vous vous en faites ? Vous n'aurez plus à nettoyer.
Voilà, toujours ces mélanges extraordinairement étonnants, vous l'avez entendu, de textes narratifs, de descriptions, de passages d'extrême poésie et d'humour partout. Et pourtant, malgré l'humour, Christian, votre héros, arrive dans ces moments-là au point où l'adaptation n'est plus possible.
Ja, ich würde lieber noch was zu dem Humor sagen.
Je préférerais vous parler de l'humour.
Bien parlant d'humour.
Weil wir vorhin bei der Diktatur waren. Eine Diktatur eben auch, die, von der wir reden, hat immer zwei Seiten. Wie immer, wenn etwas sehr stark in eine Richtung sich neigt. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Eines Tages hatte einer der führenden Verlage des Ostblocks beschlossen, eine gesammelte Lenin-Ausgabe zu machen. Und wie das so ist bei den Mandarinen, diese Ausgabe war erstens billig und zweitens aus Leder oder in Leder eingeschlagen. Und zum Erstaunen des Verlages war der Absatz brillant und alle fragten sich, warum. Der Verlag schickte dann Leute aus. Warum kaufen das die Menschen denn so? Haben sie doch früher nicht gemacht. Bis dann festgestellt worden ist, dass die Leute die Einbände abmachten und daraus Lederhandschuhe herstellten. Die es natürlich in der Mangelwirtschaft kaum gibt.
Donc voilà, je voudrais vous parler de l'humour parce qu'effectivement, on parlait de la dictature tout à l'heure et puis comme toujours, la dictature c'est quelque chose qui a une double face, il y a toujours les deux côtés. Permettez-moi dans ce contexte de vous raconter une petite histoire. C'est un jour, une des premières maisons d'édition de la RDA a décidé de publier donc la collection complète des œuvres de Lénine. Et donc, comme c'est toujours le cas, ils ont fait une publication vraiment qui n'était pas très chère, mais avec une couverture en cuir magnifique. Et alors, ça s'est vendu comme des petits pains, d'excellentes ventes. Et effectivement, la maison d'édition commençait à se poser la question comment était-ce possible ? Parce qu'avant, c'était un petit peu peu les rossignols, personne ne les achetait. Et puis pourtant, là, ça trouvait preneur. Et au fait, ils se sont rendus compte que les gens achetaient ces livres-là uniquement pour enlever la couverture en cuir, pour se faire des gants en cuir, parce que le cuir était excessivement rare dans ces pays-là.
Un Freund von mir, un Schriftsteller, der schon damals geschrieben hat, wie Zensur am Ende, nicht am Anfang, aber am Ende funktionierte, als diese Diktatur schon sehr zerlöchert war und eher wie eine Kulisse wirkte. Man schrieb dort seine Bücher und hob sich eine gestrichene Stelle gut auf. Und irgendwann rief ein Freund an und sagte, du, ich muss dein neues Buch, ich muss der Zensor für dein neues Buch sein. Hast du nicht eine gestrichene Stelle, die du mir reinmachen kannst, die ich dann wieder rausstreichen kann, damit ich nachweisen kann, dass ich was getan habe?
Peut-être encore une autre petite anecdote, c'est qu'effectivement c'est arrivé à un ami écrivain qui écrivait déjà à l'époque où cette dictature était un petit peu finissante, et ça parle de la censure à la fin de la publication ou juste avant le lancement d'une œuvre. Effectivement, donc l'écrivain prévoyait cette censure, puisque de toute façon elle est prévue, et il était conseillé aux écrivains de l'époque de déjà prévoir quelque part dans un tiroir juste un petit extrait, quelques lignes qui permettaient à être censuré. De toute façon, c'était écrit pour, parce qu'il y avait toujours l'ami qui vous appelait à un moment ou un autre, qui disait, écoute, je suis un peu embêté, je suis ton relecteur, je dois te censurer, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à me donner pour que je puisse le rayer, pour prouver effectivement mon efficacité, en rayant justement l'extrait que tu vas insérer.
Vielleicht noch eine Geschichte. Meine Eltern hatten Freunde im Arbat-Viertel von Moskau, das ist eine ähnliche Rolle in der Sowjetunion gespielt hat, wie dieses Viertel, das ich beschreibe hier für die DDR. Und in Diktaturen spielt das Wort eine große Rolle, in beiderlei Seiten, also sowohl in der Perversion des Wortes als auch in dem, was normale Menschen darin lesen. Und es erschien eines Tages in der Sowjetunion eine Beschreibung, wie man Schallplatten aufnehmen kann, auf Röntgenfilme nämlich, mit einer Apparatur, die in öffentlichen Telefonzellen oder überhaupt in Telefonen öffentlicher Telefonzellen drin ist. Und am nächsten Tag waren alle öffentlichen Telefonzellen in der Sowjetunion kaputt.
Peut-être juste une autre petite histoire, ça se joue, c'est aussi des amis, bon, ça se joue dans un quartier de Moscou, c'est un quartier qui s'appelle Arbat, qui ressemble un petit peu au quartier que je vous décris ici dans mon livre en RDA. Et vous savez, bon, le mot, c'est quelque chose de très très important dans les dictatures, mais aussi bien dans la perversion qu'il peut comporter que dans l'interprétation qui peut lui être donnée par les hommes. Et il fut un temps où donc dans ce quartier-là, il était dit qu'il est possible d'enregistrer de la musique par le truchement des films des films utilisés en radiographie. Mais pour ce faire, il fallait un petit outillage qui se trouvait dans les cabines téléphoniques publiques de Moscou. Donc les deux ensemble vous permettaient d'enregistrer de la musique. Et à peine donc cette chose dite, le lendemain, toutes les cabines téléphoniques à Moscou étaient vandalisées et il n'y en avait plus aucune en tout Moscou.
Allein schon die Erfindungsgabe, auch das ist typisch für Diktaturen, dass man anfängt erfinderisch zu werden. Das muss ja erst mal einer rauskriegen, dass man auf Röntgenfilme Schallplatten selber machen kann, dass das funktioniert.
Peut-être une autre caractéristique des dictatures est justement cette inventivité, parce qu'il faut quand même que quelqu'un trouve cette astuce un jour qu'on puisse éventuellement enregistrer de la musique sur des films utilisés en radiographie ou en radiologie, excusez-moi plutôt. C'est peut-être ça aussi qui est très intéressant.
Und in dem Viertel, in dem ich groß geworden bin, gab es eine russische Heizerin, eine sehr voluminöse Frau. Und die hatte eine solche Schallplatte, und zwar von einer Aufnahme ihres eigenen Brustkrebses, dass sie sich beim Kohleschaufeln zugezogen, den sie sich beim Kohleschaufeln zugezogen hat. Und über dieser Aufnahme ihres eigenen Krebses waren She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah von den Beatles drauf.
Et dans le quartier dans lequel j'ai grandi, effectivement, il y avait une mamouchka, une dame, elle s'occupait du chauffage chez nous. C'était une dame assez forte, assez corpulente. Et elle s'est Elle a réalisé un tel enregistrement, un tel disque, au fait, sur la radiographie de son carcinome mammaire qu'elle avait eu, et elle avait enregistré sur cette plaque, au fait, « She loves you, the Beatles ».
Diese Seiten gehören eben auch zu einer Diktatur.
Et cela aussi sont des aspects qui sont partie intégrante d'une dictature.
Je crois que Uwe Tellekamp vient de vous donner avec cette image toute la substance de son livre, qui est à la fois d'une drôlerie irrésistible et d'une drôlerie terrifiante. Je vais vous proposer de lire un dernier passage qui vous donnera l'un des moments clés de la fin du livre, c'est-à-dire celle où Christian, le héros, entre réellement en résistance et se retrouve en prison dans l'armée. Et ensuite, je vous céderai la parole pour quelques minutes. Uwe Tellekamp doit malheureusement repartir dès ce soir pour Paris, puisqu'il est demain à l'Institut Goethe, et doit prendre un taxi à 7h20, mais vous aurez quelques minutes pour lui poser des questions juste après.
La garde conduisit Christian vers le point de contrôle. Il ne quitta pas la caserne, on le conduisait dans la salle de garde. On ouvrit l'une des cellules d'arrêt. Christian regarda la lumière du soleil, découpait un carré de soleil derrière le coin arrière gauche. Une couchette relevée, un tabouret. Christian se tourna vers le gardien, mais le soldat fit un signe de la tête. On ne parle pas. Le gardien referma derrière Christian, en se donnant du mal pour ne pas faire trop de bruit. Christian s'assit. Les murs étaient badigeonnés de peinture à l'huile grivoise. « Au trou », se dit-il. « Te voilà donc ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne disent rien. » Il entendit depuis l'extérieur les voix des instructeurs. « À droite, droite! À gauche, gauche! Au pas de course, marche !» Trépignement de bottes, de temps en temps un ordre hurlé. « Régiment fixe !» Le commandant du régiment était arrivé et l'officier de service faisait son rapport. Ronflement de moteur. De l'extérieur, hors de la salle de garde, on entendait les formules rituelles qui précédaient et suivaient la relève des gardiens. Le tintement du métal lorsqu'ils déposaient les pistolets mitrailleurs, leurs ceinturons, le matériel de cuisine. Le soir, des soldats ivres braillaient dans les cellules voisines. « Hé, mon pote, pourquoi ils t'ont serré ?» E-I. Éloignement illégal, songea Christian. Illégal, distance, moralement déprouvé. Vous avez une sœur. Et toi ? La question s'adressait à la crêpe. Hé, hey, tu as la bouche vissée ? Ferme ta gueule. Et toi, mon pote ? Celle-là, c'était pour Christian. Il l'entendit de loin, assis sur ton tabouret. Il ne répondit pas. Les soldats poussèrent des jurons. La crêpe et Christian restèrent 3 jours dans la cellule, aux arrêts, vendredi, samedi, dimanche. On leur donnait à manger dans la salle de garde, ce que contenait la cantine. Le dimanche, un morceau de gâteau. S'ils voulaient aller aux toilettes, ils devaient appeler. Le soleil déplaçait de minces bandes dans la cellule, de gauche à droite. Les bandes s'allongeaient vers le soir, devenaient plus fines, s'émaciaient. Il ne restait plus qu'un filet qui disparaissait sur le bord de la table pliante. Christian passait le plus clair de son temps assis sur le tabouret. Le soir, il ne pouvait plus supporter de connaître aussi précisément les petites bosses, les creux, les fissures dans le bois, les endroits creusés par le passage de ses prédécesseurs, les mains sous les cuisses. Il était malgré tout important pour lui de faire la connaissance de ce petit carré sur lequel il était assis, sur lequel il ressentait de la douleur au bout de quelques heures en position assise. Regarde avec précision. C'est ce que lui avaient enseigné Ménot et Richard. Il ne pouvait pas s'allonger sur la couchette dans la journée. À 18h sonnaient les cloches de l'église de Grune. Christian ne l'avait jamais encore remarqué. Puis, il s'assit sur le sol, aussi près que possible du radiateur et de ses côtes tièdes. 5 lames, couleur ivoire sur peinture chaleur silicone argentée. Elle s'écaillait en 117 endroits différents et aucune écaille n'était triangulaire. La fenêtre était à portée.
Merci pour cette lecture magnifique. Je voudrais simplement conclure avant de vous laisser la parole en vous disant quel bonheur peut être le travail atroce d'un traducteur sur ce genre de texte. On est comme un cuisinier qui, avec quelques années de métier quand même, se retrouve tout d'un coup devant ce qui, pour moi, constitue les plus belles substances culinaires qu'on m'ait jamais apportées, d'une précision phénoménale, dosable au centième de millimètre près. Et on arrive au bout à un résultat qui n'est jamais totalement satisfaisant, parce qu'aucune traduction n'est satisfaisante, mais qui emplit, quand on relit après, le cœur d'un très grand bonheur de traducteur. Merci au Votelcom. Je voulais dire que vraiment, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous avez ce soir devant vous un grand écrivain. Et je vous laisse la parole.
Vielen Dank, auch wenn ich der Meinung bin, dass das etwas übertrieben ist. Wenn ein Deutscher von einem Franzosen hört, er sei ein guter Koch oder liefere die guten Zutaten, dann weiß ich nicht, ist das ein Kompliment oder ist das ein Sakrileg?
Donc effectivement, merci beaucoup, même si je trouve vos propos légèrement exagérés, mais quand effectivement un Allemand s'entend dire par un Français qu'effectivement il était un bon cuisinier qui lui a donné les ingrédients merveilleux, je ne sais pas si effectivement il s'agit d'un compliment ou d'un sacrilège.
Vous savez que nous sommes très attachés ces jours-ci à la coopération franco-allemande, mais moi, c'est sincère.
Vielleicht noch zwei Dinge. Das erste, wenn Sie mögen vielleicht glauben, dass das alles sehr weit weg ist, 20 Jahre her und aus einem sehr fernen Land, aber ich kann Sie da beruhigen. In Deutschland gibt es zurzeit Tendenzen, die mich sehr daran erinnern, und die Bürokratie ist unsterblich.
Peut-être deux choses, si vous me permettez, pour terminer. Vous avez peut-être l'impression que cela parle d'une histoire lointaine. Ça fait déjà 20 ans et un pays lointain. Mais actuellement, se dessinent en Allemagne certaines tendances. Et effectivement, je pense que la bureaucratie est immortelle.
Et das Zweite ist, wir haben heute Abend sehr wenig über Frankreich gesprochen. Es gibt eine kleine Szene in dem Buch, eine meiner Liebsten, die dem Helden gegenüber zeigt, wie er Proust kennenlernt. Und diese Szene deckt sich mit einem eigenen Erleben. Ich habe damals allerdings an einer anderen Stelle gearbeitet, in einem Betrieb. Und der Meister dort war ein sehr merkwürdiger Mann.
Donc peut-être une deuxième petite histoire. Ce soir, nous avons très peu parlé de la France. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une petite scénette, d'un petit extrait de mon livre. C'est peut-être l'une de mes préférées. C'est un moment où le